Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Nous voici au Phytobar en ce premier mercredi du mois pour parler électricité. Nous continuerons d'ailleurs pendant deux ou trois semaines derrière à en parler. C'est un sujet étonnamment riche et surtout étonnamment peu abordé en fait. Et d'ailleurs, je remercie nos auditeurs et nos invités d'être là si nombreux. Je ne m'attendais pas à avoir tant de monde sur un sujet parfaitement lisse, parfaitement étanche, semble-t-il, un peu technique peut-être. Et donc, vous voici nombreux pour venir discuter, débattre avec les auteurs des cahiers de Global Chance. Un numéro intitulé « Du gâchis à l'intelligence, le bon usage de l'électricité », un numéro qui est co-signé par l'association Global Chance et l'association Megawatt. Et nous avons autour de cette table des personnes que nous commençons à bien connaître. Bernard Laponche, qui est cofondateur de l'association Global Chance, expert international en efficacité énergétique. Benjamin Dessus, qui est président de l'association Global Chance, ingénieur et économiste. Et enfin, Thomas Guéret, deux casquettes pour une personne, deux associations, l'association Megawatt, que nous connaissons bien également, et l'association RAP, Résistance à l'agression publicitaire. Et la raison pour laquelle je cite les deux, c'est que vous allez à un moment certainement faire le lien entre les préoccupations de ces ingénieurs qui cherchent à traquer l'efficacité énergétique partout où ils le peuvent, et ceux qui se battent contre la déferlante, on va dire, de la publicité. Alors je le disais, un sujet finalement relativement peu abordé. C'est très curieux parce qu'on a tout de même eu assez souvent l'occasion de parler d'énergie dans cette émission, mais c'est vrai que l'électricité en tant que telle apparaît assez peu, et même Benjamin Dessus, elle a été exclue des derniers débats et des dernières discussions autour de l'efficacité énergétique, en particulier de la nécessité de faire des économies d'énergie.
Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous racontez, dans la mesure où l'électricité, on en parle beaucoup. On parle beaucoup d'électricité nucléaire, on parle beaucoup d'électricité éolienne, on parle beaucoup de photovoltaïque, on parle beaucoup de la production d'électricité.
Voilà.
On en parle tout le temps. Et tout le monde s'empaille pour savoir s'il préfère le photovoltaïque au nucléaire, au charbon, au machin, chouette pour faire de l'électricité. Par contre, de l'usage de l'électricité, on ne parle jamais. Comme si, une fois qu'on avait fait de la bonne électricité, le bon usage était évident. Autrement dit, il faut faire la meilleure électricité possible, et puis après ça, camarade, consommer. Donc on s'est posé, nous, la question autrement. La production, c'est une chose. On produit l'électricité comme on peut, comme on veut, avec plus ou moins de succès et plus ou moins de dégâts pour l'environnement. Mais on se pose rarement des questions sur son usage. D'abord, comment elle est utilisée en France, en Europe? Est-ce qu'elle est bien utilisée ou mal utilisée? Donc c'est vraiment cette question qu'on s'est posée en sortant complètement des problèmes de production qui sont traités tous les matins dans les journaux. Mais une fois qu'on a l'électricité, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en fait un bon ou un mauvais usage? Voilà la question que se posait avec Megawatt, parce que ça nous semblait, alors là, effectivement, un problème qui n'est jamais traité, et qui permet d'ailleurs, du coup, d'éviter l'efficacité électrique, etc., ce que vous disiez tout à fait au début de votre intervention. Voilà.
Donc, comment elle est utilisée, certes, mais quand je disais qu'on n'aborde jamais cette question, c'est que, de fait, on voit assez peu de données, d'informations, autre que, en effet, sur les différentes techniques, sur les différents moyens de production, mais il y a finalement assez peu de données.
Les données existent, elles sont un peu confidentielles, un peu compliquées à traiter. Elles existent quand même, et l'effort qu'on a fait, c'est de les rassembler, de les comparer avec les autres pays européens, ne serait-ce que pour s'apercevoir que ce qui apparaît comme des dogmes en France, et des choses définitivement acquises, quand on saute une frontière, qu'on va chez les Belges, les Italiens ou les Allemands, ça se passe complètement différemment. Et comme on va supposer que tous nos voisins sont des crétins, on peut se poser quelques questions.
Alors, Benjamin Dessus parle de dogme, Bernard Laponche, on peut parler aussi de tout un corpus de présupposés sur lequel on ne revient jamais, on ne s'interroge pas ou peu. Je persiste.
C'est-à-dire que ça a toujours été comme ça, en particulier du fait d'être cette espèce de puissance étatique bis qu'est EDF, autant la nommer, qui depuis, enfin, depuis que qu'on travaille dans ce milieu, c'est-à-dire un certain temps, a considéré que l'électricité, c'était, d'abord que l'énergie, grosso modo, c'était l'électricité. Le reste, c'est pas vraiment important. Et que l'électricité était le bien de l'humanité, et que la question de son utilisation ne se discutait pas. Et dans les années 60, dans les années 70, quand on a lancé en particulier le grand programme nucléaire, il y avait une loi qui était, enfin, une loi physique, qui était proclamée, qui était le doublement de la consommation d'électricité tous les 10 ans. Et sur cette base, on continuait à consommer donc, à raison de 7% par an, ça fait ça, hein, le doublement tous les 10 ans, et cette consommation était automatique. Et ceci étant posé, après on discutait en détail de la production, ce que disait Benjamin, avec quoi on produit, etc., en France, bon, avec le nucléaire, mais le côté consommation était considéré comme une donnée, et ça augmentait de façon continue, et on ne pouvait absolument pas en discuter.
Oui, pourquoi est-ce qu'on avait ce sentiment?
Ça, c'était pas un sentiment, c'était imposé par l'ensemble, EDF, Corps des Mines, les préfets, les CRS si nécessaire. Enfin, je veux dire, ça faisait vraiment partie de l'État et de la nation dans ce qu'elles ont de plus respectable.
Thomas Guéret.
Ça rejoint l'idéologie du progrès, c'est-à-dire que on est dans une société encore aujourd'hui, malgré toutes les limites qu'on voit à notre mode de développement, et donc encore plus au moment des Trente Glorieuses des années 70, où il fallait croire dans le progrès, il fallait croire dans la société de consommation, et à coup de, y compris de matraquage, on parlait des CRS à l'instant, y compris de matraquage publicitaire, cette fois-ci, on nous a rentré dans le crâne qu'il fallait toujours consommer plus, que c'était normal, etc. Y compris en abandonnant les usages antérieurs, où on avait une économie de subsistance locale, où on était sobre, on faisait attention, pour rentrer dans la frénésie de la consommation.
Oui, mais enfin, tout ça, c'était tout de même en grande partie lié au fait qu'on avait, alors je ne sais pas, on va pas dire sentiment, mais on avait en tout cas l'illusion que c'était une énergie facile d'accès, peu coûteuse, propre, silencieuse, invisible. Enfin, il y a quand même tout un ensemble de mythologie, une mythologie, si vous voulez, Bernard Laponche.
Oui, c'est une mythologie qui a été très bien, mise en avant. Et si vous voulez, il y a toute une idéologie du progrès, comme disait Thomas Guéret. Les soviets et l'électricité, c'est pas rien. La fée électricité, c'est pas rien. Donc effectivement, c'était un produit assez extraordinaire. Et on ne se posait absolument pas question des limites qui allaient se présenter, que ce soit sur le plan environnemental, que ce soit sur le plan des risques, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan des ressources. Alors, on s'est aperçu de ces limites sur les ressources dans les années 70 à propos du pétrole, mais l'idée que l'électricité devait échapper à ces limites est restée très présente. Et la preuve en est, c'est que il était normal de faire des économies, c'est petit à petit rentré dans l'esprit que faire des économies d'énergie était important, en particulier des économies de pétrole, mais des économies d'électricité, non. Et on l'a bien vu récemment avec la taxe carbone, qui avait pour objectif de réduire les émissions, mais aussi de réduire les consommations. Et bien entendu, cette taxe n'a pas porté sur l'électricité.
Mais c'est ça qui est mystérieux. C'est qu'à l'époque où il fallait se désengluer de la situation difficile du pétrole, on a exonéré l'électricité de toute réflexion sur un bon usage. Au moment où on parle de changement climatique et donc de nécessité d'arriver à une meilleure efficacité énergétique, de nouveau, on exonère l'électricité. Benjamin Dessus.
Du temps en 73-74, au moment de la crise pétrolière, le lancement du programme nucléaire avait pour but, affiché par Giscard d'Estaing, de réduire notre dépendance pétrolière. Donc l'idée n'était pas tellement économisons de l'électricité, mais on va faire de l'électricité à la place du pétrole. Donc on est tranquille. 30 ans plus tard, on regarde ce qui se passe, et on s'aperçoit qu'un Français moyen consomme plus de pétrole qu'un Allemand moyen, un Italien moyen ou un Anglais moyen. Un Italien moyen, c'est tout à fait intéressant, parce que lui, il n'a pas du tout de nucléaire. Donc, manifestement, à ce titre-là, c'est raté. Mais c'était quand même, ça a été pendant très longtemps une défense d'un grand programme nucléaire. Après ça, on est passé à l'histoire de l'effet de serre, et on en reparlera, où manifestement on est aussi en train de faire un bide du côté de l'effet de serre et du nucléaire, mais et de du mix électrique français. Mais manifestement, au départ, l'idée qu'on allait faire de l'électricité bon marché avec des systèmes qui n'étaient pas du pétrole, qui n'étaient peut-être du charbon mais pas du pétrole, nous désengluait dans l'idée des gens, dans l'idée de Antoine, de nos gouvernants, complètement de la dépendance pétrolière. Et donc on pouvait y aller. C'était la seule concession qu'on avait vis-à-vis des ressources. Quant aux ressources uranium, je me souviens qu'à l'époque, on nous disait, écoutez, l'uranium, d'abord c'est pas cher, ensuite il y en a pas mal, on n'en a pas beaucoup exploré, et de toute façon, il y en a plein dans l'eau de mer. Plein dans l'eau de mer, ça veut dire qu'il y en a à peu près une partie par million. Dans un mètre cube d'eau de mer, vous en avez un microgramme, quoi. Il suffit d'aller la chercher, quoi. Et donc, comme il y a beaucoup de mètres cubes de flotte dans les océans, on est tranquille, quoi. On avait oublié de faire le calcul que l'énergie et le flux de flotte qu'il fallait faire passer dans des tamis pour sortir cet uranium était quelque chose de totalement gigantesque. On n'en parle plus, mais on était complètement sur ces trucs-là dans les années 70.
Alors au chapitre justement des grands absents de la discussion, ce que vous venez précisément de souligner, Benjamin Dessus, c'est que l'électricité en tant que telle n'existe pas. L'électricité est toujours produite par une autre forme d'énergie.
Alors l'électricité, on la trouve dans les orages, dans les éclairs, on sait mal les domestiquer, on trouve de l'électricité naturelle, mais on a du mal à la domestiquer. Et tout le problème, c'est des électrons, il y en a partout dans la nature, je suis fait d'électrons. Le problème, les discipliner, les mettre tous en ordre pour aller ou mettre tous au même endroit au moment où on en a envie, ça coûte relativement cher en énergie. Bon, voilà.
Donc, si maintenant on traverse cet écran qui nous a empêché de nous intéresser de plus près à l'électricité, et si on suit le chemin que vous avez suivi, on s'aperçoit, vous me le disiez encore tout à l'heure en préparant cette émission, qu'il y a un certain nombre de faux-semblants qui s'effondrent.
Alors que si on regarde les critères d'un bon usage de l'électricité, si on se pose la question d'un usage de l'électricité qui est bon pour l'environnement, pour la précarité énergétique, pour l'économie, pour l'égalité sociale, enfin, si on se pose une série de critères comme ça et qu'on confronte l'électricité à ces critères, on s'aperçoit que ce que défendent nos gouvernements, ce que défendent nos ingénieurs aujourd'hui, n'est pas la réalité. Par exemple, on nous dit, vous faites de l'électricité, vous allez faire des économies d'énergie primaire, c'est-à-dire que vous allez mettre de l'électricité à la place du charbon, par exemple, donc c'est très bien, et vous allez faire des tas d'économies. Et on oublie de dire que pour faire de l'électricité, il a fallu dépenser beaucoup d'énergie, des choses de cette espèce. Donc, les coefficients qu'on utilise pour faire ces démonstrations, qui sont des coefficients a priori techniques, qu'on garde depuis 20 ans, etc., eh bien, ils sont complètement faux. Et on continue à vivre sur ces données. Un exemple très clair.
Oui, parce que quand vous dites qu'ils sont complètement faux, essayons.
Un exemple très clair. Nous vivons, pour l'instant, sur une équivalence entre l'énergie qu'on met pour faire de l'électricité et celle qu'on obtient finalement aux bornes de chez soi, qui est un coefficient magique de 2,58. Ça sert à faire tous les calculs de la nation. C'est-à-dire entre l'électricité que vous avez chez vous, le kilowattheure que vous avez chez vous, et le nombre de kilowattheure d'énergie quelconque qu'il a fallu mettre en amont pour obtenir ce kilowattheure final. Il y a des rendements, des pertes de distribution.
Donc pour un, il a fallu 2,58.
Il en a fallu, on vous dit, pour en faire un, il en a fallu 2,58. Eh bien, c'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est 3,2.
Pourquoi aujourd'hui?
Ben parce que quand vous regardez le nombre de kilowattheure qui sont produits en France aux bornes des installations et les kilowattheures qu'il a fallu mettre dedans, ben aujourd'hui c'est 3,2, c'est pas 2,58. Alors pourquoi est-ce qu'on ne change pas de coefficient? Parce que c'est magique. Ça fait quand même 25% d'écart.
Mais qu'est-ce qui fait que ça a changé, Bernard Laponche?
Ben c'est probablement qu'à l'époque, c'est un peu technique, mais à l'époque, les centrales, il faut bien voir qu'avant le tout nucléaire, les dirigeants géniaux de d'EDF avaient inventé le tout pétrole. Ce qui d'ailleurs a fait que, au moment du choc pétrolier, il y a eu effectivement un problème. Et les centrales à pétrole, donc des années, du début des années 70, avaient un rendement assez élevé. Et c'est sur la base du rendement de ces centrales à pétrole, sous lourd, qu'on a calculé le 2,58.
Et on l'a gardé.
Or, les centrales nucléaires ont un rendement beaucoup plus faible. Parce que les réacteurs nucléaires fournent la chaleur, mais à des températures plus faibles que celles des centrales à fioul ou que certaines centrales à charbon. Et donc, le rendement d'une centrale nucléaire est plus faible. Et comme l'énergie primaire, c'est-à-dire l'énergie qu'on met, c'est compté sur la base de la chaleur produite, et la différence entre l'énergie primaire et l'énergie finale, l'électricité qui arrive chez vous, est beaucoup plus importante, d'où le 3,2. Mais au lieu de le changer pour respecter ce mauvais rendement des centrales nucléaires, on fait semblant que le rendement, finalement, soit très bon. Et tout est basé. Enfin, chaque fois qu'il y a un document officiel sur ces questions, vous cherchez l'erreur et vous la trouvez. C'est quand même extraordinaire. Il y en a plein d'autres, mais qui sont quelquefois un peu complexes, mais c'est presque une spécialité.
Il y a celle du CO2.
Il y a celle du CO2. Alors là, c'est Thomas Guéret qui va nous expliquer ça, parce que c'est effectivement assez impressionnant.
C'est une espèce d'embrouille qui date depuis toujours, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu dogmatique encore là, c'est-à-dire qu'on considère que comme on a 80% de la production française qui est issue du nucléaire, que le nucléaire dans sa réaction thermique n'émet pas de CO2, on considère que l'électricité française, alors il y a encore 10%, à peu près 10% d'électricité hydraulique, donc on considère que l'électricité française, par défaut, elle fait zéro CO2. Donc le chauffage électrique, l'éclairage, font zéro CO2. Alors c'est un raisonnement qui est très gentil comme ça, sauf que le calcul, il est fait à la louche sur une année, et il tient pas du tout compte de la réalité physique qui fait qu'à tout moment, le système électrique doit fournir l'ensemble de la production d'électricité, doit être égal à la consommation. Alors quand il fait moins 15 en hiver, on a vu ça par exemple le 8 janvier cette année, quand il fait très froid, et bien tout le monde demande du chauffage en même temps, tout le monde demande de l'éclairage en même temps, le matin, le soir, surtout le soir, et donc on se retrouve avec la pointe de consommation, et à ce moment-là, les usages qui sont juste à ce moment-là, le chauffage et essentiellement un petit peu l'éclairage, ont un contenu en émission de CO2 qui est bien plus fort. Et c'est un moment aussi où le 80% nucléaire, 10% hydraulique explose, puisqu'on va importer beaucoup d'électricité de nos pays voisins, notamment d'Allemagne ou d'autres pays, avec de l'électricité produite à partir de charbon, par exemple. Et également, on va relancer toutes les centrales thermiques de notre pays pour contribuer à la production nécessaire.
C'est-à-dire que ce qu'il faut rappeler, c'est que la production d'électricité, il y a une sorte de base constante qui est assurée effectivement par l'hydraulique et le nucléaire, et surtout le
hydraulique de rivière, voilà, un petit peu.
Surtout le nucléaire, principalement le nucléaire, mais que le nucléaire n'est pas souple en quelque sorte, il ne peut pas véritablement faire des changements. De production pour s'ajuster à cette consommation qui, elle, est fluctuante. Et donc, en cas de pointe, c'est là qu'on commence les importations d'électricité.
Alors, on commence par mobiliser, c'est-à-dire qu'en fait, on mobilise les moyens de production d'électricité sont mobilisés en fonction de leur coût de revient. Alors, vous avez donc de leur coût de revient marginal. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez des investissements dans l'hydraulique de barrage ou même l'hydraulique au fil de l'eau qui sont, on paye la centrale et après ça, il y a très peu de coûts d'exploitation et il n'y a pas de combustible pour faire fonctionner ce type de production d'électricité. Donc une fois que l'investissement est fait, on a intérêt à faire fonctionner le plus souvent possible, le plus longtemps possible, ces équipements. C'est le cas aussi pour le nucléaire. Donc du coup, quand on est plutôt dans un creux de demande d'électricité, on va voir facilement fonctionner ces éléments-là. Mais après, au fur et à mesure que la demande en électricité augmente, et qu'on aura déjà mobilisé ces éléments-là, il va falloir en ajouter d'autres. Alors on ajoute de la cogénération en hiver, ensuite on ajoute des centrales thermiques à flamme, etc., jusqu'à des types de production qui sont extrêmement pointus, extrêmement coûteux aussi, qui vont être capables de fonctionner seulement quelques jours, quelques heures à la demande. Quoi.
Et, faut-il l'ajouter, extrêmement émetteur de gaz à effet de serre.
Oui.
Et c'est justement là.
Des turbines à gaz qui marchent avec du fioul, etc.
Et c'est justement de ça que nous vous invitions à parler, Thomas Guéret, le fait que les calculs sur l'électricité française exempte de CO2 est également arrangé au chapitre des mythes concernant l'électricité.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a, à partir du moment où on a posé cette complexité-là du système électrique, avec les pointes saisonnières, l'hiver par rapport à l'été ou la mi-saison, la pointe journalière, c'est-à-dire un jour de la semaine par rapport à un samedi ou un dimanche, et puis la pointe horaire, donc comme je disais tout à l'heure, la pointe de 19h par exemple, en fin d'après-midi, quand on a posé ça, on se rend compte qu'on va aller dans plus de détails, qu'il faut regarder les choses avec différentes méthodes de calcul. Alors, autant effectivement le contenu en CO2 de kilowattheure moyen français, c'est de l'ordre de 100-110 grammes de CO2 par kilowattheure, autant quand on commence à rentrer dans des approximations des émissions par usage, on a des choses très différentes. Alors, dans un premier temps, il y a eu cette espèce de dogme d'un bloc qui disait que c'était 106, je crois, grammes de CO2 par kilowattheure, qui ont appliqué à tous les usages. Ouais. Voilà, l'électricité, les réfrigérateurs, tout était bon, c'était du centigramme. Et petit à petit, on a vu quand même la muraille se fissurer parce qu'il y avait de la pression, y compris des gens qui sont autour de cette table pour dire non, c'est quand même pas sérieux votre affaire. Et du coup, on a vu apparaître une note co-signée entre l'ADEME et EDF en 2005, où là, on a fait des moyennes de consommation par saison. Donc on a dit voilà, en hiver, les moyennes de consommation, on mobilise tant de centrales thermiques, tant de centrales nucléaires, etc. Et effectivement, il y en a quand même un petit peu plus du thermique qu'en été. Donc on a eu tout d'un coup des contenus en CO2 pour par kilowattheure qui sont montés à 180 grammes pour le chauffage. Alors là, pendant plusieurs années, on a eu ça, c'était 180 grammes, il fallait prendre 180 grammes, et puis c'était le nouveau dogme. En quelque sorte, il était déjà quand même plus proche de la vérité. Et après, quand on a regardé, quand on est allé plus loin, l'ADEME est allé plus loin ensuite en 2007 avec RTE, le réseau de transport de l'électricité, et là, on arrive à des calculs qui sont complètement marginaux, c'est-à-dire en regardant vraiment l'ajout d'un kilowattheure de chauffage, qu'est-ce que ça va ajouter en consommation en émissions de CO2. Là, on arrive à 500 à 600 grammes de CO2 par kilowattheure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous décidez d'installer un chauffage électrique chez vous, dans une maison neuve, où vous réhabilitez vos métiers de chauffage électrique, il faut que vous sachiez que le kilowattheure de chauffage que vous aurez chez vous, il va émettre entre 500 et 600 grammes de CO2.
Et non pas
3 fois plus que le gaz ou le fioul, quoi.
3 fois plus que le fioul. Donc vous n'avez pas
de. Vous avez l'impression d'avoir fait un truc génial et vous faites 3 fois plus de CO2 que si vous avez mis un chauffage à gaz.
Alors, détail curieux et amusant, cette note de l'ADEME et de l'RTE n'a pas été publiée, je crois, ou en tout cas, elle a.
Non, il y a eu des péripéties.
Il y a eu des difficultés, en tout cas, pour la rendre publique.
Ah ben oui.
C'est-à-dire qu'en fait, elle n'a pas été publiée officiellement, mais comme elle existait, elle a fini par filtrer, puis que le jour où les ONG l'ont mise sur la table, les officiels ont dû dire effectivement, ça existe, et effectivement, c'est ça nos calculs.
Alors, pourquoi vouloir à tout prix baisser la réalité a baissé le.
Je vais vous donner un exemple. Notre cher président a lancé, là, il y a 6 mois, un vaste programme de véhicules électriques en France, avec l'idée qu'on aura 1 million de véhicules électriques en France en 2020. C'est un beau programme industriel, ça fait plaisir à Renault et Peugeot, et pourquoi pas? Bon, on fait des véhicules électriques. Et toute la défense de cette affaire consistait à dire, regardez, c'est formidable, puisque ces véhicules électriques, ce million de véhicules électriques, va marcher avec du nucléaire, puisque nous avons un parc français qui est essentiellement nucléaire ou hydraulique, ça va être parfait pour l'effet de serre. Quand on regarde un peu plus près, on s'aperçoit que si on a 1 million de véhicules électriques en France, si on ne les charge pas la nuit toute, entre minuit et 3 heures du matin, en été de préférence, période dans laquelle il y a que du nucléaire qui marche, ou le week-end en été, le reste du temps, on utilise du charbon et un certain nombre de choses. Et puis, si on a 1 million de véhicules électriques en France, il est assez peu probable que tout le monde la recharge la nuit, parce que quand vous êtes au bistrot et que vous n'avez plus de charge, vous allez vous mettre au truc à midi, à la borne du coin, et essayer de vous recharger, et de vous recharger vite, parce que vous voudriez bien repartir au boulot. Il faut savoir que si vous rechargez un véhicule électrique sur une prise pendant 7 ou 8 heures, en gros, c'est un chauffe-eau électrique, c'est 3 kW. Si vous voulez le faire en 1 heure au lieu de 8, c'est 30 kW, c'est-à-dire un immeuble. La puissance est dépensée par un immeuble. Et si vous voulez le faire en 3 ou 4 minutes, c'est un quartier. C'est un quartier de Paris. Donc ça pose quand même quelques problèmes. Et alors, si vous êtes plusieurs à vouloir faire ça en 3 minutes, à côté du phytobar où vous êtes en train de déjeuner tranquillement, vous voyez bien que vous créez une pointe considérable, qui à tous les coups ne marchera pas avec du nucléaire, mais avec des turbines à gaz, si l'électricité n'est pas coupée simplement parce que le réseau se sera cassé la figure. Donc vous voyez qu'on est sur un truc complètement bidon, dans lequel on échafaude l'hypothèse qu'on va faire avoir 1 million de véhicules en France, 1 million ça commence à faire beaucoup, qui voudront bien se recharger dans des petits pavillons de banlieue, la nuit entre minuit et 3h du matin, ou 6h du matin, et qui serviront simplement tranquillement entre, pour emmener les enfants à l'école, etc. Donc c'est une espèce d'utopie parfaite, et ça marche pas. Alors, moi j'ai imaginé simplement que on allait aux vieilles charrues, en plein été, vous voyez où c'est les vieilles charrues, là, là, en plein milieu de la Bretagne, à Carhaix, il n'y a rien du tout, et que sur les 50 000 voitures qui y sont, il y en a quelques milliers qui sont électriques. Et puis elles écoutent quelques concerts, et puis elles voudraient repartir. Les batteries sont déchargées, elles veulent se recharger. Mais le réseau de Carhaix qui fait quelques kilowatts est incapable de faire ça. Et vous foutez la Bretagne complètement en l'air. Non, pas seulement pour des raisons de CO2, mais pour des raisons de réseau, si vous voulez.
Thomas Guéret.
Oui, oui, je souscris pas mal à ce que vient de dire Benjamin dessus. Avec juste une nuance, c'est que je pense que la voiture électrique peut avoir des applications quand même efficaces. Hein. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais en ville, avec des véhicules partagés, enfin, on pourrait discuter de cas dans lesquels cet outil-là en particulier peut être vraiment pertinent. Mais bon, je souscris à ce qu'il vient de dire.
Bon, vous allez pouvoir discuter puisque on va maintenant aborder, maintenant qu'on a vu que les calculs n'étaient pas aussi lisses et transparents qu'on pouvait l'imaginer de prime abord, on pourrait maintenant aborder la question des usages, justement, puisque c'est celle qui est centrale dans ce numéro des cahiers Global Chance, et que, de fait, on a là aussi quelques surprises, et en particulier, la répartition des usages montre que, principalement, ce sont les bâtiments qui sont consommateurs. Si on additionne le résidentiel et le tertiaire, on arrive à 67% de la consommation, c'est ça ?
Plus.
Plus ? Benjamin dessus ?
C'est plus que 50.
À nos experts qui consultent.
67, c'est quoi ?
Oui, 67, c'est ce que j'ai dit. Voilà,
j'ai
donc c'est pas.
57, ah.
Donc 67, c'est bien 67. Alors, quel commentaire de nos experts en énergie ?
Ben, le premier, rapidement, Benjamin, parce que
Benjamin
connaît mieux l'usage. Mais le premier, c'est que chaque fois que vous discutez avec à peu près n'importe qui, on vous dit, et encore récemment avec des gens soi-disant importants, on vous dit les besoins de l'industrie. L'industrie, c'est fondamental, on va pas casser notre industrie, patata. Et donc, il faut, pour fournir cette électricité à cette industrie, de plus en plus de centrales, etc. Que ce soit nucléaire ou pas, d'ailleurs, ça n'a pas d'importance. Et en fait, l'industrie, c'est moins d'un tiers de la consommation d'électricité. C'est encore une idée issue du, enfin, c'est Jules Verne, bon, etc. Mais c'est très vieillot. Et en fait, là, les 67%, c'est-à-dire plus des deux tiers, c'est les consommations dans les logements, les bureaux, enfin le résidentiel et le tertiaire. C'est-à-dire des consommations dont chacun considère qu'il est qu'un tout petit bout, ce que vous consommez en éclairage, en réfrigérateur, en audiovisuel, etc. Ça ne doit pas être très important. Ben, c'est ça qui fait le gros de la consommation d'électricité en France. Et en particulier en France, parce que on a vu tout à l'heure que la France avait le record, le triste record de la plus grande consommation de pétrole par habitant. Elle a aussi, et de loin, le triste record de la plus grande consommation d'électricité par habitant. La consommation d'électricité par habitant de la France est supérieure à la consommation d'électricité par habitant de la Californie. Et les Californiens ne sont quand même pas des gens fauchés, misérables, malheureux. On ne compare pas au Burkina Faso. Et donc, si vous voulez, il y a un gaspillage qui vient en particulier du fait que c'est utilisé inintelligemment.
Alors, justement, qu'est-ce que c'est que ce manque d'intelligence et qu'est-ce qui explique qu'on soit les champions de la gadget d'électricité ?
Alors, il y a deux points. Il y a les usages thermiques de l'électricité et les usages spécifiques. Vous savez que l'électricité, il y a des choses qui sont irremplaçables. Vous éclairez ou téléphoner à quelqu'un, ça utilise un peu d'électricité. Et la télévision, ça utilise un peu d'électricité. La réfrigération, on sait bien la faire avec de l'électricité, on sait mal la faire autrement, sont vraiment des usages qu'on peut considérer comme spécifiques de l'électricité. Puis il y a un certain nombre d'usages qui sont substituables. Vous pouvez vous chauffer par effet joule avec une résistance et un convecteur électrique, vous pouvez vous chauffer au gaz, vous pouvez vous chauffer au soleil, vous avez des possibilités de substitution. Alors, la France se caractérise par un très fort recours au chauffage électrique direct, ce qui consiste à faire passer de l'électricité dans une résistance, ce qui est une des plus mauvaises utilisations de l'électricité possible, parce que en termes d'énergie primaire, comme il faut 3,2 kWh pour en faire 1 kWh final et finalement chauffer quelque chose, c'est pas très brillant, alors que si vous prenez du fioul ou du gaz, avec 1 kWh, vous allez faire 0,9 kWh de chauffage. Donc évidemment, tout ça n'est pas génial de le faire avec de l'électricité qui elle-même est produite avec difficulté. Donc il y a toute cette série d'applications thermiques qui sont très développées en France, en particulier le chauffage électrique, avec de l'effet joule, c'est-à-dire directement, pas des pompes à chaleur, pas des trucs astucieux, mais des trucs les plus bêtes possibles, qui se sont beaucoup développés et qui continuent à être à peu près 70% de l'équipement des immeubles neufs ou des maisons neuves. Et ça, c'est épouvantable parce que on consomme de l'électricité pour pas grand-chose. Et quand on sait que cette électricité pour le chauffage électrique fait à peu près 600 grammes de...
Justement, celle des heures de pointe.
Justement, la mauvaise, qui fait 600 grammes de CO2 par kilowattheure, alors que si on avait mis du gaz à la place, ce qui n'est pas forcément génial, mais si on met du gaz à la place, ça ferait plutôt 200, et on est vraiment parti sur des catastrophes. Ça, c'est la partie des applications qui sont substituables. Là, c'est très clair, il faut arrêter le chauffage électrique, quoi, sinon on continue à faire des bêtises.
Je rappelle qu'au Danemark, le chauffage électrique direct est interdit. Il y a même un fonds qui était de 150 millions d'euros par an, je crois, il y a quelques années, qui était mobilisé par le gouvernement pour supprimer le chauffage électrique direct et remplacer par des pompes à chaleur performantes.
Mais alors justement, voilà, ça c'est l'insiste que je voulais faire. C'est étant donné qu'on dispose aujourd'hui d'un parc absolument colossal d'appartements et de logements qui sont chauffés à l'électricité, est-ce que c'est possible de revenir sur cet héritage très lourd ou est-ce que c'est difficile?
Alors c'est possible de...
Thomas Guéret, Benjamin Dessus a l'air de dire que c'est difficile.
Oui, c'est difficile parce que la plupart de ces maisons qui ont été construites après les années 75, à partir de 75, quelque chose comme ça, ne sont pas équipés de cheminées, ne sont équipés de rien d'autre que de convecteurs. Donc, on peut évidemment les isoler beaucoup mieux qu'elles ne le sont, ça c'est la première chose qu'on peut faire, mais si on veut changer de système, généralement on a besoin d'une cheminée pour évacuer des fumées. Et refaire une cheminée dans une maison qui n'a pas été faite pour ça, ou un immeuble qui n'a pas été fait pour ça, c'est pas du tout évident. Alors, quelquefois on peut mettre des pompes à chaleur, mais les pompes à chaleur, celles qui marchent bien, ont besoin de travailler avec des calories qui sont prises soit dans le sol, soit dans des nappes phréatiques, et non pas dans l'air. Celles qui marchent avec de l'air sont beaucoup moins performantes. Donc, on a une grosse difficulté de réhabilitation de tous ces logements.
Donc, difficulté de réhabilitation des logements, ça c'est un point, mais là on est resté sur les usages thermiques de l'électricité, et vous le disiez, il y a aussi tous les usages non thermiques, hors thermiques.
Alors ces usages maintenant dépassent en quantité, c'est 52% d'usages non thermiques et 48% d'usages thermiques.
Ça c'est quand même une surprise aussi, non?
Ça c'est une surprise, parce qu'en fait on s'était pas du tout rendu compte que l'éclairage, on savait que ça consommait. Bon. Mais on n'était pas du tout conscient que la réfrigération, et surtout l'audiovisuel et l'informatique domestique, la bureautique domestique, étaient en train d'exploser à toute allure. Et en fait, ce qui se passe, aussi bien en informatique domestique qu'en bureautique qu'en télévision, c'est qu'avec l'arrivée des écrans de plus en plus grands, avec les écrans plasma, avec les écrans LCD. Il y a 5 ans, tout le monde avait des télévisions grandes comme ça, qui faisaient 30 cm de large. Maintenant, vous voyez chez des gens des home cinéma qui font 1m20, etc. Avec des très belles technologies, mais comme ça fait 1m20, comme c'est le carré de la largeur qui compte, vous avez des consommations qui sont facilement multipliées par 5 ou par 10. Et cette explosion se fait à toute allure, et c'est en train de devenir le problème fondamental.
Sur lequel on peut agir
pour le... Alors, on peut agir sur les technologies. Quand vous passez d'un ordinateur de bureau à un ordinateur portable, vous divisez par 5 ou par 6 la consommation d'énergie, pour une raison assez simple. C'est quand un fabricant fait un ordinateur portable, il veut que ça puisse marcher pendant 3 heures de TGV, parce que sinon il a du mal à le vendre. Pour que ça marche pendant 3 heures de TGV et pas avoir une batterie de camion, il faut avoir un truc qui consomme pas trop. Par contre, chez les gens, ils s'en fichent puisqu'il a une prise. Donc ils laissent consommer au maximum, c'est tout quoi. L'un bouffe 150 watts et l'autre en bouffe 15. C'est aussi simple que ça. Donc on sait faire. Donc acheter des ordinateurs portables plutôt que d'acheter des ordinateurs de bureau. D'autant qu'ils sont aussi confortables maintenant que des ordinateurs.
Mais c'est là qu'on arrive. Ah pardon, allez-y.
Donc, sur la technologie, il y a des tas de choses possibles. Et puis aussi, il faudra imaginer une certaine sobriété. Si tout le monde pense qu'on ne peut pas vivre sans un home cinéma chez soi, voire deux, voire trois home cinéma chez soi, on est très 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 mal parti.
Et c'est là qu'on arrive aussi à la question des réglementations, normes de fabrication, étiquettes, enfin tout l'attirail qui doit ou devrait entourer la consommation d'énergie. Thomas Guéret.
Oui, ben là, on peut mettre en avant effectivement des outils réglementaires qui ont vraiment prouvé leur efficacité et qui sont encore très peu développés en Europe. Alors, on est en train peut-être de rattraper notre retard avec la mise en œuvre enfin d'une directive sur l'efficacité minimum des appareils électriques. Mais ça a mis beaucoup, beaucoup de temps. Parce qu'on a eu en 92 une première directive qui prévoyait l'étiquetage des appareils électroménagers, qui a été suivie en 97 par une directive qui limitait la consommation d'énergie des réfrigérateurs, congélateurs et les combinés. Et donc depuis septembre 99, les appareils les moins performants électriquement, énergétiquement, dans ces appareils de froid domestiques, ont été supprimés du marché. Et ça a été extrêmement efficace, puisque en l'espace de 8 ans, la consommation moyenne d'un appareil vendu était, l'efficacité énergétique était 30% meilleure en quelques années, comme ça. Il y a une transformation très, très spectaculaire du marché. Mais simplement, entre 96 et puis, 97, quand cette directive est sortie, et puis la vague de réglementations nouvelles qui arrivent maintenant, de normes nouvelles qui arrivent maintenant, il s'est passé 13 ans pendant lesquels rien n'a été fait. Il y a eu des pressions de la part des lobbies, des groupes de pression des fabricants d'électroménagers qui ont complètement bloqué, paralysé l'Europe pendant quasiment 15 ans à ce sujet-là. Et pendant ce temps-là, aux États-Unis, par exemple, les normes se sont développées. Elles avaient commencé plus tôt, dès 1989. Alors c'est quelque chose d'un peu surprenant parce qu'on a toujours cette idée des Américains qui consomment énormément d'énergie pour leurs usages domestiques, etc. C'est pas faux. C'est vrai qu'ils ont des réfrigérateurs beaucoup plus gros que les nôtres, ils consomment beaucoup plus d'eau chaude que nous, etc. Bon, cette image d'Épinal n'est pas complètement fausse, mais en même temps, eux ont fait le boulot de choisir, grâce à des techniques, à des analyses technico-économiques. Ils ont choisi quels étaient les niveaux exigibles d'efficacité énergétique minimum, au-delà desquels tous les appareils étaient interdits. Ils l'ont fait.
Donc ça a une influence sur les constructeurs européens ?
Non, en fait non, parce que c'est des marchés qui sont assez séparés, il y a même des techniques qui sont différentes. Donc bon, c'est pas complètement étanche, mais ça n'a pas beaucoup influencé le marché européen. Donc nous, on était un petit peu dans des améliorations techniques au fil de l'eau, les gens étaient un petit peu conscients quand même de la question, mais en même temps, les améliorations techniques étaient souvent compensées par des augmentations de capacité, puisqu'on a eu des réfrigérateurs de plus en plus gros, alors plus efficaces, mais quand même plus gros, donc grosso modo, on n'a pas beaucoup gagné. Mais donc tout ça pour dire que on aurait pu déjà depuis 10 ans appliquer des normes beaucoup plus sévères en France, et c'est les études technico-économiques dont je parlais, elles s'assuraient qu'on mettait l'obligation d'efficacité à l'optimum économique pour l'acheteur. C'est-à-dire qu'on s'assure qu'entre son coût d'achat de l'appareil, qui sera peut-être un petit peu plus cher pour, par exemple, un réfrigérateur un peu mieux isolé, avec un compresseur plus performant, une conception plus performante, le petit peu de plus qu'il aura dans le prix d'achat, il le gagnera, il le récupérera largement
pendant la durée de vie. L'énergie qu'il fera.
Voilà, c'est ça, pendant la durée de vie de l'appareil.
Autre curiosité, ou si on continue sur le tonneau d'Anaïs, le fait que l'étiquette énergie, qui était une excellente initiative, qui allait de A à E ou G, à G, va être aujourd'hui remplacée par quelque chose de beaucoup plus alambiqué, puisqu'il va y avoir A, A+, A++, et même A++++, c'est ça ?
L'idée d'origine, c'était de dire, tous les quelques années, on va remettre à jour l'échelonnement des appareils entre A et G. On prendra le marché, on dira... les moins bons du marché, ils sont toujours en G, puis les meilleurs, ils sont toujours en A. Sauf qu'un industriel, quand il a un produit et qu'un jour il est en C, et puis que 3 ans plus tard il est en G, ça lui déplaît. Alors comme les industriels sont très représentés à Bruxelles, ils ont tout bloqué, simplement, avec la DG Entreprise, ils ont dit, nous, pas question qu'on accepte ce système-là. Donc, ils ont bloqué le comité d'étiquetage au niveau bruxellois, et ils ont obligé à faire des mises à jour de l'étiquette en gardant les AAG qui existaient, donc en ajoutant des classes meilleures. Donc, on avait A, on a inventé le A+, le A++, et donc il faudrait un A++++, et puis comme le marché évolue toujours et que l'efficacité énergétique s'améliore toujours, on se demande où ça va s'arrêter. Et il faut voir que là-dessus, il y a eu des avis des associations de consommateurs et des ONG européennes qui ont toutes demandé à ce qu'on garde l'étiquette de A à G. C'était beaucoup plus facile à comprendre pour les consommateurs, parce que pour un appareil qui a été étiqueté il y a longtemps, comme les réfrigérateurs, maintenant il faut prendre du A++ si on veut avoir quelque chose qui soit bon sur le marché, parce que presque tous les appareils sont en A. Par contre, sur un autre type d'appareil qui vient juste d'être réglementé pour l'étiquette, si vous prenez du C, c'est déjà bien, vous êtes déjà dans le haut du panier. Donc le consommateur ne peut pas s'y retrouver, sauf à regarder dans les trucs spécialisés. Alors je signale au passage, il y a un site internet qui est très intéressant, qui s'appelle Top 10. Voilà, où là vous avez par type de produit, y compris les voitures, les lampes plus haut compact, les réfrigérateurs, etc. Vous avez une liste de produits qui ont été retenus sur la base d'analyses sérieuses.
Alors Thomas Guéret, vous allez ajouter quelques mots sur la publicité, puisque je le disais, vous êtes là aussi au titre de RAP, résistance à l'agression publicitaire, et pendant que vous faites ça, nos amis vont affûter leurs questions, parce que sinon ils n'auront jamais le temps de les poser. Donc.
Bon voilà, le constat était simple en fait, c'est que au moment de la pointe électrique, tout le monde commence à trembler. Là, c'était hiver, il y a eu un peu de risque ici, puisque RTE, en mois d'octobre, a fait savoir que compte tenu de l'arrêt de...
Il y a eu des messages très alarmistes.
Voilà, il y a eu des messages très alarmistes. RTE, le réseau de transport d'électricité, qui est le garant de cet équilibre entre l'offre et la demande d'électricité à tout moment, a dit, attention, cette année, s'il y a des vagues de froid, étant donné qu'on a des tranches de centrales nucléaires qui sont arrêtées pour incident ou pour rénovation, ça va être très très juste. Alors du coup, ils ont commencé à mobiliser quelques leviers habituels pour essayer de baisser en accord avec les industriels, par exemple, ou quelques campagnes d'économie d'électricité quand même, on pourra en parler. Mais grosso modo, dans les régions, on a commencé à avoir peur, surtout les régions qui ont une situation un petit peu marginale par rapport au réseau, comme la Bretagne ou Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui ont commencé à craindre d'avoir des grosses coupures d'électricité. Alors, dans ce contexte-là, par exemple, les municipalités commencent à se demander est-ce qu'on maintient l'éclairage des illuminations de Noël. Donc, beaucoup de municipalités font des efforts, y compris investissent de l'argent, pour mettre des éclairages avec des diodes plutôt que des éclairages à incandescence, rénover leurs appareils, arrêter l'illumination des monuments pendant la nuit. Donc, il y a une vraie mobilisation qui se fait sur le terrain, parce que, par exemple, en Bretagne, tout le monde avait peur de la coupure, de la grosse coupure. En plein hiver, et puis quand il fait bien froid, puisque c'est là qu'on a besoin d'électricité. Et dans le même temps, personne ne se pose la question de des milliers de panneaux publicitaires éclairés, parfois rétroéclairés, avec des moteurs qui font tourner les affiches, etc., qui, eux, fonctionnent tout le temps. Donc, on a fait un communiqué de presse, en fait, avec résistance à l'agression publicitaire, pour dire, mais qu'est-ce qu'on attend ? C'est facile, les afficheurs, il y en a quelques-uns, c'est quelques sociétés. On peut s'appuyer sur les lois existantes, on prend des décrets, on fait en sorte que ces gens-là obtempèrent et puis éteignent leur bidule au moment où tout le monde fait des efforts pour qu'il n'y ait pas de grosses coupures d'électricité.
Vous avez calculé ce que ça pourrait représenter comme économie ?
C'est pas énorme en fait. Quelque chose qu'il faut quand même dénoncer, c'est qu'aujourd'hui, personne n'est capable de dire combien il y a de panneaux publicitaires dans ce pays. On sait qu'on est l'un des pays les plus saccagés au niveau des paysages, notamment des entrées de ville, par la publicité, alors que la France est quand même la première destination touristique mondiale. Donc on a une gabegie absolue. On a un panneau publicitaire, et un panneau publicitaire sur deux environ en France qui est illégal en plus. Donc il y a un vrai problème là de déontologie et puis aussi de fonctionnement de notre société, quoi, disons-le tout simplement, et qu'on retrouve avec cette question de consommation d'électricité. Donc on ne sait pas combien il y a de panneaux, on ne sait pas combien il y a de panneaux éclairés, donc on ne sait pas combien ça consomme exactement d'électricité. Alors vraisemblablement, nous on a fait des calculs un peu grossiers, on est dans l'épaisseur du trait par rapport à la question, ça fait une partie de l'éclairage public qui lui-même fait une petite partie du chauffage. Et c'est plus que le symbole, il y a le symbole qui est très important. Il y a aussi le fait qu'au moment où ça casse, ça peut se jouer effectivement à quelques dizaines de mégawatts.
Des questions ? Oui, on en a une. Et il a même déjà le micro. On vous écoute.
Puisqu'on est sur la corde raide, est-ce que vous pensez que les réseaux intelligents vont pouvoir nous sauver ou pas ?
Ah, alors deux mots d'explication sur les smart grids, les réseaux intelligents. T'as jamais déçu ?
Non. La première chose, l'idée du réseau intelligent, c'est la chose suivante. C'est de dire, on va mettre de l'intelligence chez les gens. C'est-à-dire qu'on va avoir des compteurs qui permettent une interaction entre le client et le fournisseur d'énergie. Si par exemple, on a des problèmes de pointe, on peut imaginer de demander au client de décaler le démarrage de sa machine à laver d'une demi-heure, de façon à ne pas faire que tous les gens du village ne démarrent pas leur machine à laver ensemble. Donc, il y a dans cette idée de réseau intelligent, il y a une grande partie qui est mobilisons les clients de façon à savoir précisément comment ils consomment leur énergie, qu'ils le sachent eux-mêmes aussi, car je pense que vous êtes rigoureusement incapable de reconstituer votre facture électrique, savoir comment vous consommez votre électricité, et ça c'est un des intérêts de ce genre de choses, c'est que de savoir comment on consomme son électricité est probablement la première mesure pour faire des économies. Tant que vous ne savez pas où sont les sources de gaspillage, vous n'avez aucune chance de savoir ce qu'il faut faire pour réparer les choses. Donc, sur cet aspect, c'est tout à fait intéressant. D'autre part, il y a dans les réseaux intelligents l'idée que des tas de sources beaucoup plus ponctuelles que les centrales nucléaires, des petites sources un peu partout, puissent approvisionner localement des gens de façon à prendre le relais des grandes sources et des grands systèmes de transport. Donc, dans les réseaux intelligents, il y a ces deux concepts, au moins ces deux concepts, l'intelligence chez le client et l'intelligence géographique, si vous voulez, de réseaux plus courts que l'idée de faire venir de Fessenheim l'électricité en Bretagne, etc. C'est un peu l'idée, si vous voulez, qui a prévalu à l'installation de l'informatique décentralisée. Moi, quand j'étais jeune, on avait des très gros ordinateurs, on préparait ces calculs avec des cartes informatiques, on allait les porter, on était sur des serveurs, on était des esclaves, si vous voulez, on les portait sur un gros ordinateur. Si sont arrivés les petits portables, où on a beaucoup d'intelligence chez soi, on peut faire beaucoup de choses chez soi, on échange des informations, on peut stocker aussi des données ailleurs pour si jamais votre ordinateur tombe en panne, et l'idée du réseau intelligent, c'est un peu ça. Si on a plus de possibilités chez soi, localement, on peut être à la fois producteur et consommateur d'électricité, on en échange avec ses copains, et puis on a une espèce de sécurité qui est un maillage global.
Mais alors rapidement, Benjamin Dessus, parce que sinon on ne pourra pas prendre une autre question. Oui. Est-ce que ça peut nous sauver?
Non, ça ne suffit sûrement pas à nous sauver. Ça peut, par exemple, améliorer des problèmes de pointe. On peut arriver comme ça à décaler un certain nombre de pointes de courant et donc améliorer un peu les choses.
Thomas Guéret ?
Moi, je reviens à un épisode un petit peu fâcheux. Là. C'était la tempête de 1999 qui a plongé des dizaines de milliers de foyers dans le noir et pour longtemps, hein, plusieurs jours. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte, moi je me suis rendu compte, j'étais assez choqué, qu'il n'y avait quasiment aucun message intelligent sur la demande d'électricité qui ont été diffusés. En gros, soit vous aviez l'électricité, vous pouviez continuer, vous étiez incité à l'utiliser comme d'habitude, soit vous ne l'aviez plus, et là, vous n'aviez plus rien. Or, ça aurait été facile de dire, par exemple, à la télévision, attention, pendant quelques jours, s'il vous plaît, faites moins de lave-linge, éteignez bien les lumières, on aurait pu faire une vraie campagne de sensibilisation. Et ça aurait permis de rebrancher les gens. Parce que chez le distributeur d'électricité, ils décident de couper une zone ou une autre, parce qu'ils ont leur tension qui est maintenue correctement, ils savent qu'ils peuvent brancher des gens, ils doivent en brancher d'autres, etc. Et donc, quand on n'a aucune intelligence du réseau, et que surtout, la seule intelligence qu'on en a, c'est la production, la distribution, et surtout pas les usages, on se plante.
Donc avant même de parler de réseau intelligent, arrêtez d'avoir un réseau bête, quoi.
Ouais, en fait. C'est déjà pareil.
Oui, moi,
c'est
très vite, parce qu'on a une autre question.
Bon, c'est peut-être très bien, mais c'est un peu aussi la suite technologique avec le progrès qui arrivera dans je ne sais pas quand. Les possibilités d'économie de consommer moins,
voilà.
Même à même usage, sont colossales. Et c'est la première chose à comprendre. Je recompare aux États-Unis, Thomas parlait des États-Unis, la Californie, 6000 kWh par an et par habitant, le Texas, 15000. Les deux États les plus riches. Californie, pour des tas de raisons, en particulier centrales nucléaires, etc., a fait des économies d'électricité avec les réglementations, avec les progrès techniques, etc. Enfin, tout ce qu'on a cité, mais ce qu'on a cité, ce sont des quantités considérables. C'est pas des pourcents. un facteur 2 sur quel appareil, une loi à Los Angeles qui interdit que plus de 10% de la lumière des lampadaires aille vers le ciel, ce qui est du bon sens, mais si vous ne faites pas de loi, ça ne se fait pas. Donc les moyens réglementaires et techniques sont déjà considérables, plus les moyens d'usage, d'achat, etc.
Et une dernière question, et on va presque avoir le générique dessus, on vous écoute.
Oui, bonjour, j'ai cru entendre une étude qui montrait que effectivement on peut faire beaucoup d'économies d'énergie par des appareils à 50 000 plus, mais qu'en fait, à pouvoir d'achat constant, c'est-à-dire que si j'ai un frigidaire qui me permet d'économiser, mettons, 100 euros par an, et ben ces 100 euros, je vais les dépenser pour faire un voyage en avion en Thaïlande ou acheter un écran plat, pas un plus. Donc, voilà, si vous avez une information là-dessus, merci.
Oui, c'est un peu c'est ce qu'on appelle l'effet rebond, qui peut être un effet rebond interne, entre guillemets, c'est-à-dire, en gros, j'ai une voiture qui consomme moins, donc qui me coûte moins à l'usage, donc je vais faire plus de kilomètres. Donc ça, c'est l'effet rebond direct. Il y a un effet rebond un peu externe ou indirect, qui est de dire, on va débloquer, on va faire économiser de l'argent aux gens, et finalement, cet argent en plus, ils vont le mettre peut-être dans des moyens dans des usages énergivores. Je pense que la solution quoi de nos problèmes, elle se trouve dans une réflexion qui dépasse simplement la question technique, qui est celle probablement de la simplicité volontaire, de la sobriété. Et tant qu'on n'aura pas allié une bonne technique qui va nous apporter une partie de la solution à une vraie réflexion sur notre société, quel est le but, comment est-ce qu'on recherche le bonheur ensemble, est-ce qu'on veut des villes dégueulasses, complètement polluées, dans lesquelles dont on va vouloir s'échapper à tout prix, aller très loin avec un prix énergétique terrible, ou est-ce qu'on veut essayer de vivre harmonieusement dans des éco-quartiers, faire des choses belles, et avoir envie d'aller dans son coin pour découvrir de l'écotourisme, etc. Donc ça touche à des sujets qui sont très importants et pour lesquels la publicité joue un rôle vraiment central, puisqu'aujourd'hui on nous matraque pour des usages qui ne sont pas essentiels. Et voilà.
Et il y a un article tout à fait intéressant d'une sociologue, Marie-Christine Zellem, qui traite de cette question de la culture que nous devons transformer, acquérir, une nouvelle culture des usages d'électricité. Du gâchis à l'intelligence, le bon usage de l'électricité, c'est donc le titre du numéro 27 des cahiers de Global Chance, qu'on peut se procurer auprès de l'association, j'imagine.
www.global-chance.org.
Bernard Laponce, Benjamin Dessus, Thomas Guéret, merci beaucoup de nous avoir donné toutes ces informations. Merci au Phytobar de nous avoir accueillis. Terre à Terre, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine sur le site franceculture.com. Notre téléphone, le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Segassi. Préparation, documentation, Laurence Genepin, Anne Bouzon. Prise de son et mixage au Phytobar, Laurent Macchietti, Célia Dufour. Réalisation, Olivier Bétard. Bonne semaine à tous.